Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, on espère que vous avez passé des fêtes pas trop pourries. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Nouvelle année, même équipe, je suis Anaïs et je suis toujours en compagnie de mon crew de sorcières véganes. Salut Margaïde.
Salut, il fait froid dans le studio, c'est l'hiver à Marseille, c'est horrible.
Salut Elsa.
Salut.
Alors si vous êtes assidus, vous savez qu'on a parlé de maternité dans notre 8e épisode et c'était un épisode plutôt intense. Mais comme la maternité, ça ne concerne pas tout le monde, cette fois-ci on va parler de non-maternité. Il faut savoir qu'en France, selon l'INED, 5% de la population déclare ne pas souhaiter d'enfant. Et selon Charlotte Debest, j'espère que je dis bien son nom, les raisons de ce non-désir sont les mêmes quel que soit notre genre, à savoir la liberté d'entreprendre, la volonté d'indépendance et de mobilité. Donc, disons-le très clairement, non, on n'a pas toutes envie de devenir maman, d'être enceinte, d'accoucher, d'éduquer, tout ça. Enfin, perso, vraiment, ce programme est très loin de m'émoustiller. Alors que, comme quasiment tout le monde, j'ai très longtemps cru que je deviendrais mère un jour, parce que c'est comme ça que les choses se passent en général et parce que c'est la norme. Alors comme la plupart des warriors qui témoignent dans cet épisode, j'ai mis du temps à m'autoriser ne serait-ce que de penser qu'en fait non, je n'ai peut-être pas envie d'avoir un enfant. Et la première fois que j'entends parler, on est en 2014 et c'est l'actrice Anémone qui prend la parole. « Je n'aurais pas d'enfant, j'aurais été beaucoup plus heureuse, je me suis fait un enfant dans le dos. » Elle affirme alors qu'elle aime ses enfants mais que si c'était à refaire, elle ne le referait pas. Et pour moi, c'est enfin une femme qui a le courage de dire qu'elle n'était pas faite pour être mère. Dans ma tête, ça fait l'effet d'une bombe. Moi aussi, je suis à peu près certaine que si je le faisais, je le regretterais. Et j'ai pas envie de le faire payer à mes gosses potentiels. Donc, warriors sans enfants, elles pensent leur choix, elles défendent leurs droits, elles ont survécu à des années de contraception foireuse, elles ont décidé de se faire stériliser. Bref, elles sont déterminées et partagent avec nous leur victoire. On est pressé de les écouter, mais avant de commencer, c'est le moment courrier des auditrices. Elsa, tu voulais nous parler d'un message qu'on a reçu.
Yes, en fait, c'est Colline qui nous a écrit sur Facebook. Et elle a commencé son message par « Hier, il s'est passé quelque chose qui m'a fait penser à toute cette communauté de warriors. Alors, on s'est dit qu'on allait le partager avec vous toutes. » Donc, en gros, elle rentrait d'un rendez-vous en voiture et elle voit une femme qui traverse devant elle en courant pour fuir l'homme qui l'accompagnait. L'homme la rattrape, la grippe. Alors elle continue à rouler en regardant dans son rétro et elle se dit non, c'est pas possible cette situation. Donc elle fait demi-tour. Je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc elle s'arrête à leur hauteur, elle demande s'il y a un problème. Le mec il dit non, on s'est disputé vite fait, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais la femme elle dit non, c'est pas juste une petite dispute. Voilà. Donc Colline, la warrior, demande s'il faut appeler quelqu'un ou si elle peut déposer madame quelque part. Monsieur répond que non, en la tenant fortement par le poignet.
Oula.
Donc, situation quand même très 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 flippante. Donc Colline sort de sa voiture, elle s'approche d'eux en demandant si elle peut les aider, quel est le problème. Et là, monsieur finit par lâcher madame et ça a semblé se calmer, ils sont repartis à pied. Donc, elle nous raconte ça et elle nous dit plusieurs fois dans son message. Alors, je précise qu'elle a que 23 ans, Colline, donc c'est quand même assez jeune pour réagir dans ce genre de situation.
Avoir le courage d'y aller. Ouais.
Elle nous dit que voilà, qu'elle savait pas quoi faire. Elle a hésité à appeler la police, mais en fait, elle voulait pas prendre cette décision à la place de la femme. Mmh. Du coup, elle a appelé le 3919, donc c'est numéro violence femme info, où au final, elle a trouvé une oreille attentive et quelqu'un qui l'a aidée un peu à débriefer voilà ce qui s'était passé. Et elle finit son message par « Si je vous raconte tout ça, c'est parce que même si j'ai pas forcément agi de la manière des plus idéales, je me suis arrêtée pour essayer d'apporter mon aide parce que ce podcast et mes autres lectures actuelles me confortent dans l'importance de la sororité et me poussent à essayer d'agir. Et j'espère que si un jour je suis dans le besoin, une warrior s'arrêtera à mes côtés. »
Ouais.
Donc ouais, je pense que enfin on peut lui dire bravo vraiment.
Ouais, bravo Colline.
Parce que c'est vraiment enfin ça peut être flippant quoi ce genre de situation, surtout si le mec est enfin visiblement violent. Ouais. Et effectivement, c'est très complexe de savoir quoi faire si la femme elle est en couple et qu'elle a pas l'air forcément de vouloir
Oui, c'est toujours délicat.
Appeler la police et ce genre de
moi
choses.
Ça m'est arrivé une fois de voir une meuf qui se faisait frapper par son mec et d'essayer d'intervenir, sauf que c'est vrai dans ces situations en fait, il y a pas de bon comportement à avoir, on peut pas arrêter le truc parce qu'on peut pas se mettre en danger, on peut pas prendre la décision à la place de la femme. Donc moi je trouve ça super courageux.
Parfois, la colline même je souhaite pas être aidée parce que ça la met potentiellement encore plus en danger aussi.
C'est ça.
Donc mais le tout déjà, ça commence toujours par, en tout cas, montrer qu'on est là et attentif.
Voilà.
Ça représente pas de gros risques, mais montrer qu'on a vu et qu'on est potentiellement prêt à intervenir si besoin est, c'est déjà un bel acte de solidarité qui peut changer la donne, quoi.
Et rassurer la femme qui est à côté, dire bah non, c'est pas normal en fait. Tu trouves ça pas normal et moi non plus, je trouve pas ça normal, quoi. Sororité.
Yes. Bon, ben voilà, après ce joli témoignage de Warrior, on va entamer les Warriors sans enfants. Marga, tu nous présentes notre première Warrior sans enfants.
Et oui, Leïla, qui ne veut pas d'enfants et qui, comme toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants, est confrontée évidemment au problème. Mais que répondre à la famille, aux amis et même aux inconnus qui notanent de « alors, c'est pour quand ?» Donc Leïla, elle a 36 ans, elle est née, elle vit en Guadeloupe. Voilà, elle a plein d'autres projets dans sa vie que d'avoir des enfants. Hein. Elle le dit, genre lire, jouer aux jeux vidéo toute la nuit, écrire, apprendre des langues étrangères. Et donc du coup, elle a eu vachement de temps pour pouvoir mettre au point quelques armes atomiques contre tous ces gens pénibles qui se mêlent vraiment de ce qui ne les regarde pas.
Bien sûr, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout en Guadeloupe où le catholicisme est tout aussi présent que l'homophobie. Je me prends des remarques de l'ordre de « tu vas changer d'avis, t'as pas encore trouvé l'âme sœur », ce à quoi je réponds avec le sourire qu'il n'y a aucune garantie que la dite âme sœur soit un homme, ou bien « Dieu a dit qu'il fallait se multiplier », ce à quoi je réponds toujours avec le sourire que Satan est mon seigneur et maître. Et pour achever mes interlocuteurs, je leur dis que je suis le genre de femme chez qui on retrouve des bébés morts dans le congélateur. Après que j'ai offert leur sang à Satan. Mais bon, j'ai fini par me rendre compte que je faisais que dépenser mon énergie à me justifier auprès de gens que ma vie ne regardait pas et qui en plus, pour la plupart, ne lèveraient même pas le petit doigt si j'étais en galère avec un enfant. Et c'est juste fatigant d'entendre des « alors, c'est pour quand ?» année après année, et de polémiquer avec de la famille, des amis, des inconnus qui sont persuadés que la vie sans enfant est tellement triste et terne. Et c'est là que je me suis dit que, quitte à entendre des âneries, j'allais faire payer mon temps d'écoute. Donc, si je sens venir un de ces discours au mieux moralisateur et stupide, au pire hautement misogyne, j'arrête la personne et je lui dis très sérieusement « écoute ». Si tu as l'intention d'essayer de me faire changer d'avis ou de m'expliquer comment fonctionne mon propre corps, ce sera 20 euros de base. Si tu invoques Dieu ou la fille qui était comme moi et qui est devenue une poule pondeuse, tu peux compter le double. Et fais gaffe, parce que si je me rends compte que tu es en train de dire que les femmes ont besoin d'un mec, tu risques une baffe dans la gueule et ça c'est cadeau. Et juste un dernier mot pour tous ces gens majoritairement de sexe masculin qui pensent qu'une femme n'est faite que pour avoir des enfants. Si par un hasard extraordinaire un enfant entrait dans ma vie et que c'était une fille, rien que pour vous, je lui apprendrai à viser les couilles.
Ouais ! J'adore ! Trop, trop bien !
C'est notre première sataniste sur Yes.
Bravo Leïla, j'adore toutes tes réponses, franchement.
Faire payer le temps d'écoute, effectivement, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on devrait le faire.
Tellement.
Mais c'est un sujet qui déclenche immédiatement des débats ineptes. C'est impressionnant le nombre d'inepties qu'on te sort quand tu dis que tu ne veux pas d'enfant.
Non mais laisse tomber.
Et ce que ça raconte aussi le témoignage de Leïla, c'est que ne pas avoir d'enfant, c'est vu comme anormal, quoi. Ah c'est limite une déviance, une tare. Et je trouve que Leïla, elle joue super bien avec ce cliché, en poussant vraiment le trait vers l'absurde, quoi, en parlant de Satan et de bébé dans le congélateur. Alors c'est une super technique, hein, mais c'est vrai qu'il faut quand même l'assumer derrière. Donc vraiment bravo Leïla. Et ne pas avoir d'enfant, déjà, c'est pas forcément si rare ni si nouveau que ça, en fait. Enfin, ça existe depuis très très longtemps, des femmes sans enfants. Au début du XXe siècle, par exemple, la proportion de femmes sans enfants était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et si on prend par exemple les femmes de la génération 1900, donc tout début du XXe siècle, elles sont 25% à ne pas avoir vu d'enfants.
Quand même. Voilà.
Donc vous me direz, c'est dû à la guerre 14-18, il n'y avait plus de mecs, ils étaient tous morts dans les tranchées. Mais si on regarde la même période aux États-Unis, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Alors qu'aujourd'hui, les Européennes de plus de 40 ans sont 18% à ne pas avoir eu de bébé. Parce qu'elles ne voulaient ou ne pouvaient pas. Voilà. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et c'est pas exceptionnel non plus, hein, parce que 18% sur nos générations, ça fait quand même quasiment une femme sur cinq. Donc il faudrait quand même arrêter de regarder les femmes sans enfants comme des bêtes cheloues. Et en plus, s'il y a des femmes sans enfants, c'est forcément qu'il y a des hommes sans enfants. Et ça, c'est vrai que bizarrement,
ça
pose beaucoup moins de questions.
Bah, du coup, ça va se confirmer à chaque témoignage, je pense. Mais cette fois, je vous présente Joy. Joy, elle a un parcours hyper compliqué avec la contraception. Aucun moyen n'est adapté pour elle. Et alors, elle subit systématiquement des effets secondaires de ouf. Donc, elle a vraiment, vraiment galéré à trouver la solution qui lui convient. Et elle nous raconte son parcours.
Première pilule à cause de mon cholestérol sanguin, c'était pas possible. La deuxième, c'était une prise de poids plutôt énorme. La troisième, ça a été des plaques de boutons sur le buste, les bras, le visage. La quatrième, une baisse de libido vraiment dans le négatif. J'ai même eu une pilule, une combinée, qui celle-là me faisait des migraines, à m'en faire vomir, à m'obliger à être dans le noir pendant 2 jours, c'était terrible. J'ai essayé le stérilet suite à une première IVG à mes 20-21 ans, qui s'était retournée, et les premiers médecins que j'allais voir me disaient que mes douleurs venaient du stress. Plus tard, quand j'ai voulu en remettre un, en fait, ça n'a pas été possible. C'est la gynéco même qui a dû me le retirer au bout d'une heure puisque je pouvais toujours pas marcher et qui m'a dit que malheureusement, j'avais l'utérus trop étroit pour. Je me voyais avec des enfants, je pense parce que c'est censé être la norme. Et puis, il se trouve que plus je grandissais et moins ça rentrait dans mes projets, en fait. Quand, quelques années après, mon ancien compagnon m'avait fait part de son projet d'enfant, c'est là où j'ai vraiment réalisé qu'en fait, non, moi j'étais pas du tout partante pour ça. Et jusque-là, avec cet ancien compagnon, il avait accepté qu'on n'utilisait que le préservatif. Donc pendant les 5 dernières années, ça n'avait été que le préservatif, ça se passait très bien. J'ai d'ailleurs retrouvé un cycle naturel. Et puis en fait, il se trouve qu'avec mon nouveau compagnon, là, le préservatif faisait vraiment défaut. Donc j'ai appris par la suite que le lubrifiant pouvait compromettre l'efficacité d'un préservatif. C'est un conseil que je donne. Faites attention. Et donc j'ai dû subir à nouveau 2 IVG. Je m'étais complètement renseignée, j'étais tombée sur la stérilisation définitive comme possibilité de contraception, en fait. Ce qu'on ne nous parle jamais. Enfin, il faut savoir que moi, je n'ai aucun souvenir au lycée ou dans n'importe quel dépliant de la contraception, voir qu'une définitive était possible, en fait. Donc là, j'ai vu cette option, mais comme une libération possible pour moi. Et donc j'en faisais part au docteur. Et là, on m'a clairement dit que voilà, j'avais 28 ans, moins de 30 ans et pas d'enfant. Une stérilisation, ça n'allait pas être possible. Donc en fait, on se retrouve complètement abasourdi et en état d'ingérence complètement par le corps médical qui vous dit en fait ce qui est le mieux pour vous, quoi. En gros, on fait comprendre que de toute façon, en gros, vous êtes une femme, vous allez vouloir des enfants, quoi. À peine un an après, j'ai eu ma deuxième IVG. Je leur ai refait part de mon envie d'être stérilisée. Et on m'a renvoyé exactement aux mêmes arguments. Donc là, j'ai quand même repris un contraceptif qui est l'implant parce que clairement, je voulais pas resubir une grossesse, quoi. Sans surprise, j'ai pris 8 kilos. J'ai des boutons, j'ai des douleurs, j'ai des règles qui sont vraiment pas régulières. Et puis là, c'est un branle-bas le combat pour affirmer en fait ce désir de non-enfant. Il faut la force, hein, franchement, pour prendre des rendez-vous, pour expliquer à chaque fois un nouveau docteur notre désir, essuyer un refus, quand c'est qu'un refus et qu'il n'y a pas du jugement avec, hein, clairement. Il y a une amie qui a trouvé ce groupe Facebook d'entraide sur les stérilisations définitives, en fait. Et sur ce groupe-là, j'ai trouvé un gynécologue qui accepte. Et donc là, c'est une joie, déjà, honnêtement, de savoir que c'est possible. De ne pas être jugée, d'être acceptée et que notre choix est reçu, ça fait un bien fou. Et je me suis retrouvée en sortant de chez ce docteur avec les larmes aux yeux de libération. De se dire que ça y est, en fait, que tout ce que j'ai subi est derrière moi. Et c'est vraiment un beau sourire et c'est une belle victoire que je souhaite à toute personne qui a ce désir-là, en fait.
Voilà, Joy, le parcours de la combattante, mais genre, j'ai jamais vu ça. La difficulté d'accès à une contraception qui te tatane pas la gueule, c'est quand même hyper impressionnant et qu'elle ait pas lâché l'affaire, parce que moi, je pense qu'à partir de la troisième pilule qui me fout dedans, je suis déjà ailleurs, quoi.
Mais c'est horrible.
T'imagines la charge mentale, en plus, parce que pendant ce temps, tous ses partenaires, eux, sont pépouses, quoi. C'est vraiment, elle se mange des effets secondaires incroyables. Il n'y a pas un moyen qui marche. Elle a tout testé. À chaque fois, on la prend pas au sérieux, on la croit pas. Enfin, franchement, Joy, warrior de très très haut niveau, quoi. Et effectivement, ce qu'elle dit qui est très grave, c'est qu'on n'est jamais informé sur le fait qu'il existe une contraception définitive, en fait. Ça fait pas partie des solutions qui nous sont présentées quand on commence à envisager les questions de contraception.
Ah oui, déjà que même ne serait-ce que le stérilet, c'est pas forcément quelque chose qui est proposé systématiquement, ou même l'implant dont elle parle.
On est déjà mal informé de base, mais alors celle-là, on ne va jamais jusque-là, parce que t'imagines si on prend le risque que les femmes ne fassent plus d'enfants, etc. Enfin bon, c'est hautement politique aussi le fait qu'on nous parle cette solution-là, quoi.
Alors que ça, c'est le cas en France, alors qu'aux États-Unis, c'est à peu près 25% des femmes, je crois 22% des femmes qui sont stérilisées définitivement. C'est un choix aussi. Hein.
Bien sûr que c'est un choix. Donc du coup, je voulais parler un petit peu, développer un petit peu le sujet de la stérilisation contraceptive, parce que nous-mêmes, on est très peu renseignés là-dessus, quoi. Déjà, les conditions pour le faire, c'est qu'il faut être majeur. Il y a que vous qui devez donner l'autorisation et décider. Enfin, il n'y a pas d'histoire de parents, de conjoints, etc. La solution n'appartient qu'à la personne concernée. Encore heureux, mais bon, c'est bien de le préciser.
Ouais.
Il y a un délai de réflexion de 4 mois après la première consultation médicale, puisqu'on estime que ça permet à la personne de faire un choix éclairé et de se laisser la possibilité éventuelle de changer d'avis. Bon, c'est évidemment pas le cas pour la plupart des cas, parce que je pense que quand tu arrives déjà à la première consultation,
ça fait quand même un sacré bail que tu y penses.
Mais bon, voilà, c'est encore tout le côté un petit peu infantilisant du monde de la santé. Et donc, si comme prévu, on confirme ce choix, on doit en attester par écrit, parce que genre, ils sont pas du tout flippés que tu les attaques au cas où si tu regrettes, tu vois. Enfin, c'est sympa, quoi, la confiance règne. Et ensuite, on procède donc à une opération chirurgicale et niveau technique, il y en a plusieurs. La première, c'est l'occlusion immédiate. Donc là, ça consiste à sectionner ou à boucher ou pincer les trompes pour qu'elles ne fassent plus leur taf, en gros. Donc ça, l'effet, la stérilisation est immédiate. Et la seconde, c'est une occlusion dite progressive des trompes. Donc cette fois, on insère un micro-implant dans chacune d'elles et ça met par contre 3 mois à être totalement effectif. Alors qu'avec la première, c'est immédiat. Donc là, il faut encore prévoir un moyen de contraception pendant les 3 mois pour que ça agisse, quoi. Donc à de très rares cas près, ces méthodes, elles sont irréversibles. Pour les personnes équipées d'un pénis, la méthode équivalente, c'est la vasectomie.
Suggestion du jour.
Voilà. Donc là, le principe, c'est de bloquer le passage des spermatozoïdes entre les testicules et la verge. Donc pareil, on sectionne ou on bouche les canaux concernés. Et donc, en fait, le sperme perd son pouvoir fécondant parce qu'il ne contient plus de spermatozoïdes. Souvent, on s'imagine qu'il n'y a même plus de sperme. Alors, il y en a, mais il est vidé de ses agents fécondants, on va dire.
Il est inoffensif.
Voilà. Et donc là, c'est juste une anesthésie locale. Là aussi, la stérilité n'est effective que 3 mois après l'intervention. Voilà. Pour en savoir plus, je vous mets dans la description de l'épisode un lien vers le site solidaritésanté.gouv.fr. Vous pourrez aussi télécharger tous les différents formulaires à remplir si jamais vous voulez vous engager dans cette démarche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ce lien.
Et j'ai vu aussi que la loi en fait autorise depuis 2001 toute personne majeure en fait qui en fait la demande à subir cette intervention.
Ah, seulement 2001.
Donc j'ai envie de dire seulement 2001, et j'ai envie de dire aussi comment ça se fait qu'en 2020, donc quasiment 20 ans après, on est encore en train de supplier des gynécos pour le faire, quoi, alors que c'est légal, quoi, tu vois. Enfin, c'est incroyable.
toujours.
Ça, c'est comme
une bonne
si
histoire de contrôle des corps.
Voilà, forcément, fallait qu'il au cas où qu'il puisse accueillir
si on en
un
a
bébé,
besoin.
Un fœtus, si on en a besoin.
Laissez-le à dispo.
Il y a vraiment ce sentiment, même si on commence à parler, pour aller plus loin, de la ménopause. T'as souvent chez les femmes qui commencent, qui sont au début de leur ménopause, un sentiment de culpabilité parce que t'as l'impression que tu sers plus à rien, tu peux plus. Même si t'as plus envie d'avoir des enfants, t'as quand même ce truc de merde. Maintenant, je suis un peu moins une femme qu'avant, et c'est absolument pas normal. Enfin,
ça fait partie de la fonction d'une femme d'être capable d'enfanter. Ouais. Et comme un téléphone, sa fonction c'est d'appeler. Alors, un téléphone qui peut plus appeler, c'est nul.
Et il y a toujours aussi le truc de ah, mais vous allez le regretter si jamais un jour vous voulez des enfants, de pas vous laisser cette possibilité là, machin.
Ça va venir, c'est parce que t'as pas rencontré le bon, mais moi t'imagines pas le nombre d'écueils que je. C'est toujours les mêmes, quoi. On m'a déjà demandé si j'allais me sentir complète plus tard si j'avais pas d'enfant. Alors, je suis navré pour toutes les personnes qui se sentaient incomplètes avant de faire un gosse, mais perso, j'ai l'impression d'être une personne entière à 100%. S'il y a un enfant, c'est un bonus, et certainement pas un morceau de puzzle qui me manquait, en fait.
Non.
Et puis, je trouve que c'est quand même, faire des enfants pour ce genre de raison-là, c'est quand même d'un égoïsme assez, assez impressionnant.
Mais toi, t'as cherché d'ailleurs des personnes plus âgées, Elsa, qui justement vont nous expliquer que non, elles regrettent pas du tout.
Tout à fait. Et pas des moindres, hein, parce que là, on va écouter Christine Delphi, qui est une grande féministe et sociologue. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de lire ses livres, notamment son livre « Classé dominé », qui est très très intéressant.
Ou ce qu'elle écrit sur son blog « Les mots sont importants », le blog qu'elle co-gère avec d'autres sociologues.
Oui, et il y a aussi un film, un documentaire dans lequel elle est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vous mettrai un lien. Et donc Christine, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'en a jamais voulu, et elle nous raconte un peu son parcours et ce qu'elle pense de tout ça. Alors j'ai enregistré sur Skype, donc la qualité n'est pas géniale, mais on l'entend quand même.
Pas que j'ai jamais voulu d'enfant. Des fois, pendant une longue période, je ne sais pas moi, entre mes 17 ans et mes 25 ans, ou quelque chose comme ça, je me disais, ah, c'est mignon, les bébés. Et puis, tout de suite, je voyais la tonne de travail qui tombait dessus si tu avais un bébé. Et je m'en sentais totalement incapable. Parce que, déjà, moi, j'avais du mal à m'entretenir moi-même. Alors, si j'avais eu... Je savais tout de suite que si j'avais eu un enfant... ça m'aurait pris toute la journée et j'aurais rien pu faire d'autre. Et d'autre part, j'avais vu en effet une photo, quand j'avais peut-être 17 ou 18 ans, j'avais vu une photo envoyée un accouchement, mais déjà bien avancé, où l'enfant commençait à sortir, et ça m'avait mais traumatisée. Hein. Moi, je voulais pas que mon corps soit abîmé, Et là, je voyais bien que c'était quelque chose d'horrible, hein. Enfin, c'est arrivé à une femme, voilà. Je ne voulais ni me marier, ni vivre avec un mec, etc. Ce qui était considéré comme la seule chose possible si on avait un enfant. Donc, c'était hors de question pour moi, sur tous les tableaux, hein. Il n'y avait pas une case que je pouvais cocher. C'est une contrainte qui est une envie aussi, parce que les femmes sont aussi notées sur leur production d'enfants. Enfin, on plaint les femmes qui n'ont pas d'enfants. On ne plaint pas les hommes qui n'ont pas d'enfants, non. Mais on plaint les femmes qui n'ont pas d'enfants. Et puis, elles ne sont pas considérées. Alors que, une femme qui devient mère, et maintenant, même si elle n'est pas mariée, ce qui est un grand changement, eh bien, ça lui donne un statut. Une mère, c'est formidable, c'est respectable et tout ce qu'on veut. Et voilà. Il y a un statut des femmes, disons, ordinaires qui, en effet, ne sont pas complètement des femmes tant qu'elles n'ont pas d'enfants. Ouais. Je me souviens comme un peu, de temps en temps, j'allais dans la pharmacie de ma mère et puis elle disait à une de ses clientes qu'elle connaissait, tiens, c'est ma fille, et bon, elle voyait que j'avais la trentaine et puis demandait si j'avais un enfant. Je disais non. Et généralement, elle disait, ces femmes, elle disait, c'est égoïste. Si tu réfléchis à ce diktat, tu t'aperçois que c'est un devoir des femmes. Voilà, bon, quelqu'un qui ne fait pas son devoir est quelqu'un d'égoïste. Voilà, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de vrai dans le sens où, en effet, tu vis pour toi et non pas pour servir de bonne à un enfant ou à un mari, enfin, ou à un homme.
Je ne peux qu'adhérer à son discours.
Oui, et ben merci beaucoup Christine d'avoir témoigné. Et effectivement, bah voilà, enfin c'est des trucs qui reviennent tout le temps. Hein. On va voir, ça fait partie du bingo de ce qu'on te dit quand tu veux pas avoir d'enfant. C'est égoïste, alors que, enfin, je vois pas en quoi c'est égoïste. Non. C'est totalement absurde de dire ça en fait.
Ça va avec, c'est irresponsable. Ben, en quoi ce serait irresponsable d'admettre que non, en fait, je ne veux pas, ben je ne peux pas.
Si tu t'en sens pas capable.
Ouais, c'est voilà, ça. Au contraire, c'est responsable de dire, ben, moi, personnellement, je sais ce que ça implique et je me sens pas de faire ça, en fait. Hein. De la même façon que tout le monde n'a pas envie d'être astronaute, voilà, t'as pas forcément la motivation d'avoir un mioche qui te sollicite 155 fois par jour, jusqu'à quand même un certain âge, quoi. Et puis quelqu'un qui dépend de toi entièrement. Ouais. Je veux dire, c'est une pression énorme. Au contraire, la plupart, il y a beaucoup de parents qui sont hyper irresponsables de le faire alors qu'ils sont pas du tout prêts.
Aptes, en fait, ouais.
Ou aptes. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui devraient pas se reproduire après, ouais. À voir si ce qui est, c'est compliqué de faire un contrôle des naissances parce que là, ça devient un peu totalitaire comme la Chine.
Je voterai pas pour toi la présidentielle, Elsa. Tu me fais peur.
Non, mais quand tu vois moi, j'entends ces arguments de, vu l'état de la planète aujourd'hui.
Oui.
C'est quand même compliqué hein, de continuer à faire autant d'enfants. Voilà. Mais évidemment, enfin, moi,
après,
je suis
c'est
pas...
Total qui bousille la planète, c'est pas les enfants.
Non, bien sûr, mais ça contribue à la pollution.
Il y a quand même un problème de surpopulation au niveau de la planète.
Comme on sait que les dirigeants ne vont pas changer du jour au lendemain de façon de gérer tous ces problèmes, malheureusement. Voilà.
Le capitalisme ne nous écoute pas, je crois, malheureusement.
Ouais, c'est ça.
Ah bon ?
Il faudrait qu'il commence. Et puis après, voilà, y a la question de l'accouchement. Hein. On ne veut pas être déformé, abîmé, et c'est un droit aussi.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, c'est quand même des effets sur le corps. Alors ça aussi, c'est la loterie, hein. Ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Mais bon, voilà, c'est une douleur énorme, c'est une souffrance, l'accouchement, on ne peut pas le nier. Donc,
Et puis cette histoire de statut qu'elle évoque, moi je trouve ça intéressant. Déjà, rien que l'expression qui m'a toujours interpellée, c'est devenir mère.
Pourquoi
tu deviens mère? Genre, on dirait que tu changes, tu n'es plus la même personne.
Ah bah oui.
Tu n'es plus une femme, tu n'es plus une fille, tu n'es plus une pote, etc. Tu es une mère. Et je trouve ça, c'est pareil, moi qui n'ai pas envie d'enfant, ce genre d'expression-là, je trouve que ça met un poids pas possible sur les épaules, quoi. Dire, soudainement, tu vas t'oublier, en fait, au profit de ce nouvel être, quoi. Et de ce nouveau projet à deux ou seul, quoi.
Et beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui sont des mères, disent, des fois, j'oublie que je suis une femme.
Oui.
Et que je suis pas juste une mère en fait.
C'est ça.
Que je suis un individu en fait.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et puis après, on peut avoir aussi envie de faire autre chose de son temps. Enfin, Christine était chercheuse au CNRS. Elle avait beaucoup de travail. Enfin, elle devait voyager des fois pour aller faire des enquêtes, des interviews, etc. Enfin, c'est compliqué de faire garder ses enfants et si on a des ambitions professionnelles. C'est vraiment très, très, très compliqué.
C'est ce que disait Anémone, hein, d'ailleurs. Elle disait que si elle n'avait pas eu d'enfant, elle aurait pu vraiment se consacrer à sa passion pour le cinéma et le théâtre, et qu'elle n'a pas pu le faire du fait de sa parentalité,
c'est
de sa maternité.
Il y a beaucoup de carrières qui s'arrêtent quand la femme a un enfant.
Voilà.
Et oui, mais ce qui me rend folle, c'est que souvent, dans le cas d'un couple hétérosexuel, par contre, pour l'homme, ça, c'est pas un problème.
C'est une question qui ne se pose pas. Quoi.
Ouais. C'est genre, il peut partir, pas s'occuper de ses gosses, machin. Finalement, c'est tout à fait acceptable, alors qu'une femme sera vachement jugée sur n'importe lequel de ses choix. Quoi.
Ouais, un mec, on va dire, c'est un mec.
Ouais.
Alors qu'une femme, c'est genre la sorcière ultime.
C'est
si
clair.
T'abandonnes tes enfants, mais il est tombé, c'est même pas la peine. Quoi.
C'est clair.
On parle pas d'abandonner, on parle juste de les laisser pendant trois jours
mais
pour aller
dire,
à une conférence du CNRS.
Bien sûr, mais je veux dire, il y a plein de mecs qui abandonnent vraiment, quoi. Je veux dire, qui sont plus du tout là, quoi. Ou on les voit une fois tous les 5 ans, quoi.
Allez, on leur coupe les couilles.
Voilà.
Faisons cela. Reste dans ton élan, Marga, tu nous présentes la prochaine Warrior.
Oui, alors Pauline, elle sait toujours, depuis toujours, qu'elle ne veut pas d'enfant. C'est un choix qu'elle a d'abord construit de manière personnelle, et puis au fil de ses expériences, donc les violences gynécologiques qu'elle a subies, des relations amoureuses, elle a commencé à vraiment réfléchir à ce non-désir d'enfant comme un choix politique. Et voilà, elle partage avec nous quelques-unes de ses réflexions.
Cette politisation, je l'ai réellement... C'est aussi passé par le fait que je l'ai éprouvé réellement et concrètement, par exemple, sur le couple. Ce que ça fait au couple, en fait, quand il y a un désaccord sur le fait de faire des enfants ou pas. Et où finalement, mon couple a cessé d'exister en grande partie pour cette raison-là. Et c'est progressivement que je me suis dit que c'est quand même fou qu'on en arrive à renoncer à un partage amoureux très fort. Et ça veut dire qu'on va prioriser la parentalité. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, on pense la parentalité uniquement dans le cadre conjugal, en fait. Et ça m'a vraiment questionnée aussi, quoi. À partir du moment où on refuse de se reproduire et donc de produire finalement la suite, de produire, comme dit je ne sais plus quelle chanson, la chair à patron et la chair à canon, ça veut dire qu'on, là encore, on cesse de collaborer au système qui est pensé par le capitalisme et l'hétéropatriarcat. Et par exemple, moi, ce qu'on a pu me renvoyer, c'est « Ah bon, tu vas pas faire d'enfant, mais qui va payer mes retraites ?» Alors c'était semi sur le ton de la blague et semi pas, en fait, parce que c'est refuser de participer, quoi. Comme si moi, je mettais personnellement quelque chose de collectif en danger, en fait. Aujourd'hui, au jour où je témoigne, je suis stérilisée depuis un mois, tout pile. J'ai été stérilisée par salpingectomie. Donc la salpingectomie, c'est une opération qui consiste non pas à ligaturer, mais à totalement ôter les trompes du corps. Donc on m'a enlevé les deux trompes.
Eh ben oui. On voit la santé de tes deux trompes qui sont parties.
Feu tes deux trompes.
Feu tes deux trompes, bravo.
Et donc faites des enfants pour payer la retraite des gens.
Ouais, non mais c'est ahurissant, un bon argument ça. Sans déconner quoi. Sans déconner.
Super génial.
Mais oui, comme quoi on te dit toujours que oui, le désir d'enfant, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de l'instinct, alors que non, en fait, c'est quelque chose qui est construit socialement et politiquement aussi. D'autant qu'on est quand même en France, dans un pays qui a une politique plutôt nataliste, et on a parmi les taux de fécondité par femme les plus hauts en Europe, avec 1,87 enfants par femme en 2019. Alors on ne sait pas où sont passés les 0,13 qui restent, mais bon voilà, c'est une moyenne quoi. Mais le nombre de naissances en France est en baisse depuis 5 ans, donc ce qui inquiète beaucoup certains médias parce que statistiquement en fait, pour arriver à un renouvellement de la population, il faudrait arriver à 2,1 enfants par femme.
On s'auto-remplace, en
voilà,
fait.
Voilà, pour qu'on s'auto-remplace, tu vois.
Je sais pas si c'est une très bonne idée hein, de reproduire les Français,
non.
En fait. Pas sûr.
Et donc, le message sous-entendu dans certains médias, c'est quand même aller au boulot, mesdames et messieurs éventuellement,
allez,
mais
hop,
quand
hop.
Même surtout mesdames, et jusqu'au président hein, Emmanuel Macron, qui s'inquiète de cette baisse du nombre de bébés.
Oh.
Et en avril dernier, il a dit qu'il voulait retrouver une dynamique de notre natalité.
Bah vas-y.
Ouais, bah en vrai, s'il avait vraiment quelque chose à faire de...
Il est sérieux, il a pas d'enfant, lui.
Je rêve. Non mais là, stop, quoi.
Non, mais en plus, il en avait vraiment sérieusement quelque chose à faire du bien-être des jeunes couples avec enfants. Il serait emparé déjà du débat sur ce qu'on appelle le congé paternité, hein, le congé d'accueil de l'enfant, et qui concerne le deuxième parent en rendant, par exemple, obligatoire ou en le rallongeant, ça, on en fout. Enfin bon, je ferme la petite parenthèse. Mais bon, cette injonction à fonder une famille, elle est très très forte dans la société. Donc tout tourne autour des enfants, par exemple les vacances scolaires qui viennent de l'année, les publicités, les films qu'on voit à la télé. Et pour les femmes, avoir des enfants, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est une fonction sociale, c'est leur rôle dans la société. Alors que les hommes s'occupent du travail productif à l'usine ou dans les champs, hein, à l'époque, au XVIIIe siècle par exemple, maintenant ça a un peu évolué, hein.
On travaille beaucoup plus
dans les bureaux qu'à l'usine et dans les champs. Alors que les femmes, elles, sont chargées du travail reproductif, c'est-à-dire faire des enfants, les élever et s'occuper de la maison. Donc c'est une division du travail qui remonte quasiment au Moyen-Âge en fait, qui est très ancrée dans nos sociétés. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Yvonne Knielbjerg qui est historienne et qui...
Qu'il n'a pas inventé non plus, mais qu'il a pensé.
Voilà, exactement, voilà. Qu'il a pensé, tout à fait. Donc c'est donc pour ça que dès l'enfance, par les jeux, par exemple les poupées, les petites filles sont conditionnées à la maternité et que plus tard, on va penser que par défaut, une femme, ben forcément, c'est une mère, ça va de soi. Il n'y a pas d'autre option.
Moi, ça me sidère toujours quand je vois des toutes petites filles qui sont déjà dans une imitation du rôle de mère.
Alors,
il y a la phase d'imitation, de toute façon, on imite nos parents, donc c'est normal d'une certaine façon.
Oui, mais que les garçons pourraient faire aussi, en
mais
fait.
Voilà. Et tu dis, on est déjà là-dedans alors qu'on n'a même pas 2 ans. Quoi.
C'est ça.
Ça commence très, très tôt.
Et pour réfléchir à tout ça, alors je vous conseille en fait vraiment de lire un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Lâchez-nous l'utérus, qui a été écrit par Fiona Schmidt. Alors elle veut pas d'enfants et donc du coup elle s'est beaucoup intéressée au sujet et elle développe en fait un concept qu'elle appelle la charge maternelle. Donc c'est un peu la suite de la charge mentale et de la charge émotionnelle, donc la charge maternelle. Donc moi je trouve ça super intéressant parce qu'en fait ce qu'elle dit c'est que ça concerne toutes les femmes, pas seulement celles qui ne veulent pas ou ne veulent pas encore ou ne peuvent pas avoir d'enfants et qui du coup se retrouvent avec plein d'injonctions à en avoir alors que ben non, en fait, il n'y aura pas d'enfants dans ma vie, mais aussi toutes celles qui veulent des enfants, qui essayent d'en avoir mais qui n'y arrivent pas, celles qui en ont eu un, deux ou cinq, celles qui sont des mères poules, celles qui juste ont envie de faire une carrière et du coup font garder leurs enfants. En fait, toutes les femmes, absolument toutes les femmes, sont confrontées à cette charge maternelle puisqu'il faut qu'elles soient mères et surtout il faut qu'elles soient mères dans un certain modèle. Il faut qu'elles soient des bonnes mères.
Et ça commence très tôt.
Voilà, voilà. Donc, de toute façon, on a tort. De toute façon, on fera mal. Donc, ça, voilà.
On a fini de le comprendre.
Donc, déjà, pour lutter contre ça et contre cette charge maternelle, déjà, entre nous, on peut déjà respecter les choix des unes des autres. Mm-hmm. Celles qui n'en veulent, celles qui en veulent, celles qui n'en veulent pas, celles qui en veulent plein, celles qui adoptent, celles qui font des PMA, peu importe, respectons nos choix. Et puis faire entrer aussi dans les esprits de tout le monde qu'en fait, faire des enfants, c'est pas juste une charge qui incombe aux femmes, en fait. Ça incombe aussi aux hommes, finalement, parce qu'eux aussi font partie de cette société et eux aussi élèvent des enfants, enfin, il me semble. Enfin, ils devraient, en tout cas, pour ceux qui ne le font pas.
Et dans l'éducation aussi, on met une pression énorme sur les femmes et je trouve que j'ai l'impression que bonne mère, ça veut dire mère sacrificielle. Ouais, c'est-à-dire, tes enfants passent avant tout.
Oui, mais pas
tout
trop.
Le temps.
Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que tu t'oublies totalement en tant que femme et que tu sois quand même bonne pour ton mari.
Oui, ça, c'est, oui bien sûr.
Donc,
mais alors que pour un homme, on va toujours trouver ça normal qu'il fasse passer, par exemple, son travail avant. Et ses loisirs éventuellement,
le sport,
etc. La
notion de sacrifice, c'est pas du tout...
donc effectivement, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes être dans un stress énorme et une anxiété énorme, parce qu'elles se disaient qu'elles n'étaient pas assez des bonnes mères, quoi.
Ouais, ouais.
Alors que c'est déjà assez dur comme ça, quoi.
On a toutes et tous des rapports très différents à la parentalité, en fonction de nos expériences, de nos propres parents, de nos envies, et puis de notre condition de conditionner aussi, qui est difficile à remettre en question.
Condition de conditionner,
oui.
Ok.
Et c'est justement ce dont Kat va nous parler. Kat, elle a 31 ans, elle n'a jamais voulu d'enfant, ça a toujours été très clair pour elle aussi. Et évidemment, dès que t'en parles, ça déclenche des réactions épidermiques, donc elle donne des exemples. Hein. Quelqu'un, un homme, d'après ce que j'ai compris, l'a traité de monstre parce qu'elle a dit ne pas vouloir d'enfant. Mais un gynéco lui a carrément menti et lui a fait croire que la ligature était illégale sur une personne de moins de 30 ans et sans enfant,
voilà.
Alors que, disons-le très clairement, c'est totalement faux. Elle raconte aussi que son mari ne veut pas non plus d'enfant, mais que lui, bizarrement, personne ne lui fait de réflexion, c'est étonnant.
Voilà.
On lui disait aussi qu'elle allait changer d'avis, etc. Enfin bref, les écueils habituels. Mais comme tout a toujours été très très clair pour elle, elle continue d'en parler très librement et de l'assumer. Et elle nous explique que ça a plein d'effets positifs.
J'ai eu des amis qui, quand j'en parlais, tout d'un coup disaient « Ah, tu veux pas d'enfant ? Oh, mais moi non plus !» Et j'avais l'impression que tout d'un coup, elle m'annonçait un grand secret... et qu'elle, d'un côté, elle avait l'air soulagée finalement, enfin, de rencontrer quelqu'un avec qui elle pouvait en parler, qu'elle n'allait pas les juger et même qui comprenait ce qu'elle vivait. Et j'ai aussi eu des amis qui, elles, en revanche, avaient des doutes parce qu'on a l'impression que toutes les femmes veulent des enfants et savent qu'elles veulent des enfants, mais c'est absolument pas le cas. De la même manière que pour certaines, c'est une évidence, dans un sens ou dans l'autre, y a des femmes pour qui c'est pas le cas. Et donc, voilà, moi d'en parler, ça a permis aussi à ces femmes-là de venir vers moi et de me poser des questions. Et j'espère que elles, ça les aide un peu à se faire leur propre avis. Pour moi, parler de mon non-désir de parentalité, de mon non-désir d'enfant, c'est presque un geste politique et c'est une manière de montrer que non, en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin de vie, il y en a d'autres qui sont possibles et qui sont tout aussi légitimes. On a toutes nos expériences à toutes sont tout aussi valides. Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai réussi à me faire stériliser. J'ai été opérée en avril. C'est un peu aussi ma grande victoire par rapport à tous ces gens qui me disaient que j'allais changer d'avis et tout ça. Non, j'ai pas changé d'avis. Mon choix, je l'ai ancré très clairement dans mon corps et c'est un grand, grand, grand soulagement. C'était la forme de contraception qui me convenait et que je voulais. Voilà, moi j'ai franchi le pas et c'est vraiment un poids qui est élevé de mes épaules. J'ai plus cette angoisse de tomber enceinte ou tout ça et ça vaut le coup de s'accrocher. Et je voulais envoyer plein de bonnes ondes et plein de courage à toutes les femmes qui sont dans ce parcours et pour qui bah, peut-être c'est difficile, peut-être qu'ils galèrent à trouver un chirurgien, etc. Et donc voilà, envoyez plein de bonnes ondes, vous souhaitez bon courage. Et sur ce, ben, je vous embrasse toutes très fort et continuez d'être des super warriors.
Ah ouais, miaou.
J'adore et ça soulève, bah, c'est un sujet dont on parle à chaque épisode, la sororité quoi aussi, ouais. Le fait que nous on se parle de plus en plus, qu'on s'informe, qu'on se rassure, qu'on se conforte dans nos choix. Moi je sais que j'ai une de mes meilleures amies, si tu m'écoutes Violaine, qui a été un gros déclencheur aussi dans cette réflexion, puisque deux de mes ex-compagnons ont voulu avoir des enfants avec moi. J'ai toujours considéré que c'était la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un, même plus que le mariage, etc. Pour autant, quand la question se rapprochait un peu trop, ben moi je m'éloignais.
Je ne veux pas, non.
Ouais, bah d'autant que souvent, c'est plus ça va mal dans le couple, plus le mec insiste pour avoir un gosse d'un coup. Tu sais, ça resserre le lien, tu peux plus trop t'en aller, etc. Enfin, ça resserre le lien, c'est le fantasme qu'on a dans ces cas-là, parce que c'est totalement faux. Mais et du coup, voilà, d'en parler moi avec mon amie Violaine, qui elle est très claire là-dessus, vraiment depuis le départ, c'est non, je ne veux pas d'enfant, absolument pas. Ben ça m'a aussi moi permis de vraiment me laisser aller à cette réflexion, de le penser un peu plus. Et donc effectivement, les discussions que Kat entame avec d'autres femmes, bah, j'imagine que certaines d'entre elles trouvent enfin une oreille attentive à qui elles peuvent en parler, parce que bah, voilà, moi je sais qu'en parler par exemple à ma mère c'est plus compliqué, ma mère elle veut être grand-mère, donc ces critères elles rentrent aussi, donc c'est super quand on tombe sur une amie qui aimait ce choix-là, de pouvoir se lâcher un petit peu et le penser ensemble et se donner des conseils aussi pour y arriver si jamais on veut aller au bout de la démarche quoi.
Ouais, et moi ce qui m'a aussi étonnée un petit peu quand même en préparant cet épisode, c'est que quand on a lancé l'appel à témoignages, mais en 24 heures, on a eu une vingtaine de messages de femmes qui nous disaient je me suis faite stériliser et je suis OK pour témoigner. Donc là, les quelques warriors qu'on a entendus qui en parlent, elles sont trois là. Enfin, ça fait partie d'un énorme paquet de messages qu'on a reçus. Donc on vous embrasse toutes déjà et bravo pour votre parcours.
Donc, mais il faut le savoir, on est une sacrée grande équipe à ne pas vouloir d'enfants en fait.
Et surtout, c'est possible en fait. Quoi qu'en disent certains gynécologues, certains médecins, certains chirurgiens, c'est possible. Donc voilà, le message de Kat, c'est aussi accrochez-vous. Et voilà, je pense qu'on peut relier ce message-là aussi. Renseignez-vous, il y a des groupes Facebook qui existent. Vous pouvez trouver de l'aide aussi pour trouver des personnes, enfin
des praticiens
qui acceptent de vous suivre dans cette démarche. Donc accrochez-vous, vous allez y arriver. Et c'est possible en France aujourd'hui de se faire stériliser, quoi qu'on vous dise.
C'est ça. Et j'hallucine, moi, sur le niveau d'infantilisation de « tu sais pas ce que tu veux, tu te rends pas compte, non, alors que bah, c'est mon corps, en fait, je t'ai pas sonné, quoi. »
Ouais, puis au pire, alors déjà, la possibilité de regretter, certes, elle existe, mais au pire, si je regrette...
J'assume.
Ouais, où est ton problème, en fait?
Mais c'est comme un tatouage ou des trucs comme bah t'assumes, si tu regrettes après, tant pis, quoi. Ça fait partie de ta vie, t'as fait un choix, et voilà.
Oui, alors que, comme Anémone disait, on peut regretter d'avoir des enfants, et ça
par
on
contre,
te dit jamais,
on en parle
t'es
pas.
Enceinte, t'es sûre que tu vas pas regretter?
C'est ça.
Ah ouais, non.
Si on posait la question dans ce sens-là, tout se passerait différemment. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment peur de pas aimer mon enfant ou de lui reprocher de me gâcher la vie d'une certaine manière. Enfin, c'est risqué aussi. C'est hyper risqué de faire un enfant, en fait.
C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on assume, en fait, toute cette part un peu de désir ou de non-désir, pas forcément rationnel et pas forcément explicable, en fait.
Ben oui,
enfin, qu'on ne soit pas obligé, en fait, d'expliquer tout le temps pourquoi on veut ou pourquoi on ne veut pas d'enfant ou pourquoi juste on n'en sait rien, quoi.
Enfin, c'est ça.
Au bout d'un moment.
On peut naviguer entre les deux aussi, changer d'avis régulièrement. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que juste oui, je veux ou non, je veux pas, quoi.
Lâchez-nous les ovaires, please.
Ouais, c'est clair. Bon, bah, du coup, on va passer à notre dernière warrior. Donc, elle s'appelle Kat aussi. Donc, c'est un double Kat.
Je vais dire, Kat, c'est un chat tout terrain.
Voilà, c'est ça. C'était la super blague du jour. Donc, je suis super heureuse de pouvoir donner la parole à Kat.
Elle est trop contente de sa vanne, Anaïs, le Kat.
C'est pas la mienne, c'est celle de mon mec, je peux le dire.
On te remercie pas, mec, d'Anaïs.
Donc oui, donc Kat, c'est vraiment une sacrée femme qui n'a jamais eu peur de vivre selon ses convictions, qui n'a pas cédé donc au diktat de l'enfantement. Quand j'ai discuté avec elle, elle m'a tout simplement dit qu'elle avait jamais eu envie d'avoir des enfants, que c'était à la fois une absence de désir maternel, le fameux, vous savez, qui est censé venir en package avec votre utérus, et par ailleurs le fait.
Moi, il manquait une pièce.
Ouais, c'est ça. Et par ailleurs, le fait de refuser cette assignation à être mère, c'était aussi un combat politique pour elle, parce qu'en fait, elle était au MLF, donc le mouvement de libération des femmes, et elle avait des choses plus importantes à faire que de changer des couches.
Changer le monde, par exemple.
Par exemple. Je vous laisse l'écouter.
Je m'appelle Kat, j'ai 68 ans, et je suis une femme sans enfant, parce que je n'en ai pas fait par choix. Je n'ai absolument aucun regret. J'ai absolument mené la vie que je voulais mener. J'ai été artiste, j'ai été brocanteuse, j'ai été pêcheur, marinière, correctrice de presse, et j'ai fait encore mille métiers. Et pas mal de farniente, je dois vous l'avouer. Je me suis beaucoup amusée. J'ai eu pas mal de fiancés, des femmes, des hommes, et j'ai jamais ressenti le besoin de me reproduire dans quelques moments de fusion amoureuse que ce soit. Très tôt dans ma vie, j'ai dit que je ne voulais pas d'enfants. Ça étonnait un peu tout le monde. Alors, quand j'étais petite, on riait. Après, c'était les années 70, le MLF, les mouvements écolos, les mouvements communautaires. Donc, finalement, autour de moi, les amis ne faisaient pas vraiment des enfants. On avait autre chose à faire, on faisait la révolution. Surtout celle des mœurs et de la sexualité. Mes amis ont eu assez tardivement leurs enfants. On a sauté une demi-génération. Et moi, j'en avais toujours pas et j'en avais toujours pas envie. L'idée d'être enceinte ne me branchait pas du tout. J'avais été une fois enceinte. J'avais considéré franchement que mon corps me trahissait. J'ai attendu le dernier moment pour faire une IVG, tant l'acceptation d'être enceinte était insupportable. J'ai été quand même dans ma vie assez marginale. Est-ce que c'est lié au fait que, parce que je n'avais pas d'enfant, on me considérait quelque part comme illégitime? Je suis une femme illégitime aux yeux de la société, qui n'a pas accompli son devoir de femme et qui n'a pas, finalement, qui n'est pas entière, qui reste une mineure. Je me considère comme une résistante à la société de consommation, à la folie sociale, à la guerre et au patriarcat. C'est certainement mon côté un peu libertaire. Je remercie le ciel chaque jour de ne pas avoir fait d'enfant pour mes vieux jours. Pauvre mignon, faire supporter ça à ma descendance. Non, merci. Vive la liberté, vive l'autonomie. Je vous embrasse toutes et je vous conseille de bien réfléchir.
Quatre présidentes, quatre 2020, s'il vous plaît.
J'adore.
Non, mais trop bien, merci.
C'est génial.
On t'embrasse aussi, Kat.
J'adore les mamies révolutionnaires.
Oh, mais ça fait trop du bien d'entendre une femme qui te dit, bah voilà, j'en ai pas fait, et puis j'ai pas de regrets.
Ah, mais c'est
bien.
Même pas j'ai pas de regrets, c'est je remercie le ciel tous les jours. Enfin, ouais. Et ça, elle me l'a dit plein de fois et c'est très important pour elle. Enfin, elle m'a dit, non, mais t'imagines pas à quel point je suis heureuse de ne pas l'avoir fait. Et donc, ouais. vraiment, aucun regret.
Ça, j'adore, j'aime bien cet épisode.
Et du coup, est-ce qu'elle dit aussi de ce que la société lui a renvoyé, c'est quand même assez effrayant, je trouve. Enfin, c'est quand même hallucinant, les termes qu'elle emploie, quand même, et je la comprends totalement, être une femme illégitime qui n'a pas fait son devoir, etc. Et ça dit beaucoup de choses. Donc, une femme sans enfant, c'est ça, c'est une demi-femme. Et en plus de ça, elle serait irresponsable et égoïste. Et du coup, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est un homme sans enfant, quoi. Enfin, moi, je sais pas si vous avez déjà entendu ce débat, mais on peut comparer la façon dont, par exemple, les médias traitent Jennifer Aniston, qui n'a jamais eu d'enfant, l'actrice qui était avant avec Brad Pitt. Bon, bref.
Et qui, des fois, mettent des photos d'elle en mode peut-être qu'elle serait peut-être enceinte.
Oui, voilà, c'est
parce
ça.
Que voilà, genre elle a un peu de bidon. Enfin,
tous
genre,
les deux jours, il y a des rumeurs.
Le fantasme de elle est enceinte.
Et voilà. Et alors que, par exemple, George Clooney, qui n'a jamais eu d'enfant, on n'en parle pas autant, en fait, dans les médias, quoi.
Bah, au contraire, il est valorisé comme le beau gosse, machin.
C'est ça, c'est ça. Alors, juste pour nuancer un tout petit peu, moi, à la base, je me disais, non, les mecs, ils subissent vraiment aucune pression. On va juste dire, genre, c'est un oiseau libre, il n'a pas réussi à se caser, ce genre de choses. Mais en cherchant, j'ai quand même trouvé quelques trucs qu'on pouvait dire aux mecs, enfin, que la société, en fait, leur renvoyait quand ils ne voulaient pas avoir d'enfant. Bah, on va leur dire, par exemple, t'assures pas ta descendance. Donc ça, ça va être plus dans les classes supérieures, le côté noblesse, il faut garder le nom, etc. etc.
Ce qu'on pourra lui dire aussi s'il n'a que des filles, par exemple.
Tout à fait.
Exactement.
D'ailleurs, on a déjà eu un cas comme ça dans un de nos épisodes.
Ouais. Mais qui va garder le château, voyons.
C'est ça. Et après, on peut leur dire aussi, quand même, on peut les infantiliser et leur dire, voilà, t'es un enfant qui veut pas grandir. Et du coup, je me suis dit, c'est aussi l'idée qu'on se fait de l'âge adulte.
Ouais.
C'est-à-dire, être adulte, c'est être marié et avoir des enfants.
Donc, et un prêt immobilier et
voilà, un exactement.
Jardin et donc, un canapé d'angle, une voiture, un chien.
C'est ça. Donc, pour la femme, c'est évidemment pire comme pour tout, en fait, parce que voilà, elle va les porter, elle s'en occupe beaucoup plus. Et en plus, elle a une date de péremption, donc paye ta pression, si, en tout cas, si t'en veux. Mais pour les hommes aussi, on considère qu'après un certain âge, il faut qu'ils prouvent quand même qu'ils sont bien adaptés, qu'ils savent se tenir, qu'ils sont des bons patriarches et pas juste des coureurs de jupons, parce que ça fait un peu genre, t'arrives pas à grandir, t'es un adolescent. Genre, t'es encore un adolescent, quoi. Il y a quand même cette image-là, et c'est pas très malin non plus, quoi. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça ouf que voilà, vouloir vivre sa vie dans l'insouciance, pas forcément l'insouciance d'un enfant, mais je veux dire être libre de ses mouvements,
ouais.
Bah c'est un crime en fait. Y a vraiment ce truc de devoir, alors qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout une attitude, comment dirais-je, où ils se donnent au collectif quoi. Mmh. Et typiquement, y a des gens qui peuvent se consacrer à des associations ou des projets hyper.
Bah oui.
Caritatif ou je sais pas quoi, et pas avoir d'enfants, et on va
ou
leur
politique.
Dire, ah, toi, t'es égoïste, tu participes pas à la société, mais c'est absurde, quoi.
Enfin... Mais j'ai toujours trouvé les arguments des gens qui essaient de te convaincre complètement absurdes,
ouais.
et contradictoires. Tu peux passer dans une même phrase du c'est égoïste de pas vouloir d'enfants à, mais t'as pas peur d'être seule quand tu seras vieille? Mais
ouais,
en fait, écoute
aucun
bien,
rapport.
Tu seras seule que t'aies des enfants ou pas, en fait.
Ouais,
hein, on est en 2020,
bah,
la plupart des personnes âgées ne sont pas hébergées chez leurs enfants, etc. C'est plus comme ça du tout que ça se passe. Et du coup, l'égoïsme du truc, du coup, toi, tu fais un enfant pour pas, dans l'espoir de ne pas être seule quand tu seras vieux, mais c'est moi qui suis égoïste.
Bah non, c'est ça.
On va arrêter deux minutes.
Voilà.
C'est complètement contradictoire et inepte.
Tout à fait. Du coup, on va passer à la rubrique self-care. Et pour cet épisode, on avait envie de vous donner quelques références et quelques idées pour vous conforter dans votre non-désir d'enfant ou vous vacciner d'en avoir.
Genre comme si tout ce qu'on avait dit déjà,
ça suffisait pas.
Allez, on en
rajoute une couche, allez. Déjà, on se disait que vous pouviez regarder la série Working Moms sur Netflix, qui est assez cool. Marga, tu la regardes, je crois.
Ouais, je la regarde un peu en ce moment. Ça m'a été conseillé par une copine. C'est assez drôle.
Ouais,
c'est l'histoire
drôle.
De plusieurs mères de famille, alors plutôt aux États-Unis, plutôt de classe moyenne, un peu aisée quand même. Et en fait, c'est l'histoire de leur retour en fait à la vie normale après un congé maternité.
C'est ça.
Et c'est juste horrible en fait.
Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est sans filtre. Elles font
voilà.
pas semblant.
Ouais.
D'être
c'est cool.
Sur un nuage.
Ouais, ouais.
Elle parle vraiment crûment de tous les trucs qui sont hardcore.
Il y en a une qui dit tous les jours, je rêve qu'il y ait une voiture qui passe. Moi, la voiture est...
Voilà, donc ça parle beaucoup de dépression postpartum d'ailleurs, qui est un sujet
voilà,
assez
il y a
tabou.
Ça aussi, celle qui n'arrive pas à choisir entre l'amour pour son bébé et son mari et son job. Enfin, il y a vraiment toutes les situations qui sont représentées et c'est drôle en fait.
Ouais.
C'est vraiment drôle.
Voilà, et même si vous avez des enfants, sûrement vous vous sentirez moins seul
voilà.
en regardant ça. Ensuite, pensez à toutes les choses que vous pourrez faire si vous n'avez pas d'enfants. Donc, vous pouvez voyager, vous pouvez vous engager dans des projets qui vous passionnent
oui.
à fond, que ce soit artistique, associatif ou ce que vous voulez en fait.
Oui. Vous pouvez dormir.
Voilà, donc pensez à toutes les fêtes où vous allez pouvoir aller et toutes les grasses mats
ouais.
que vous allez pouvoir faire.
La sieste.
Vous aimez avoir des longues discussions avec vos copines sans être interrompues ? Lol, ça n'existera plus si vous avez des enfants, sachez-le. Après, moi j'ai pensé à un autre truc aussi, peut-être votre enfant il voudra plus vous parler en fait,
ouais.
hein, parce que ça arrive souvent, on connaît tous des gens qui parlent plus à leurs parents parce qu'ils considèrent que leurs parents étaient complètement... voilà. Et moi je me suis dit ça plein de fois, je me suis dit putain, imagine quoi, t'as un enfant, et après il te parle plus, mais t'as fait tout ça pour rien, non mais ça va pas ou quoi, tu vois, le truc horrible. Bon après, pensez à la planète, hein, si vous êtes écolo.
Soyez zéro déchet, ne faites pas d'enfant.
Voilà, un enfant, c'est pas zéro déchet. Vraiment, vraiment pas. Faut le savoir.
Ça tourne carrément à l'épisode anti-enfant, là.
Bah, écoute, on y va à fond. On y va à fond. Et après, bah, sachez que 20 à 25% des couples se séparent dans les premiers mois après la naissance du bébé. Et ce chiffre est en progression constante. Donc, voilà, voilà. Donc, si vous aimez votre mec et
votre meuf,
sachez que souvent avoir un bébé c'est quand même très 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 challengeant pour le couple.
Oui. Et on en parlait tout à l'heure, faut pas s'imaginer que faire un enfant peut arranger les problèmes du couple.
Surtout pas
réparer une relation qui va mal.
Ça ne fonctionne pas. Ceci non. est un fantasme.
Tout à fait.
Ou alors dans de très rares cas, et dans ce cas-là, envoyez-nous votre témoignage. Vous
oui,
êtes réellement des exceptions.
C'est ça.
Voilà, bah, c'est la fin de cet épisode entre adultes, pro-adultes, anti-enfants. on espère que tu as aimé, que ça t'a donné envie d'en parler, voire même que ça t'a conforté dans tes choix, quels qu'ils soient. On remercie nos warriors pour leur témoignage. Merci donc à Leïla, Joy, Christine, Pauline et nos deux cats. J'allais pas la refaire exprès pour pas être relou, quoi. bravo à vous et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. Pour creuser le sujet, n'hésite pas à fouiller les liens qu'on mettra dans la description de l'épisode. Et si tu veux en parler, il y a plein d'espaces qui te le permettent sur les réseaux sociaux. Dans notre prochain épisode, on a envie de se marrer un peu, alors on va parler des warriors dans l'humour.
Yes!
Donc si t'es humoriste, que tu fais du stand-up et que t'as tatané des mecs parce que t'es juste beaucoup plus drôle qu'eux...
Évidemment,
si
logique.
T'as démonté la mauvaise blague de Tonton Miso à Noël, si t'as inventé la meilleure blague misandre au monde, écris-nous, on veut tout savoir. Tu peux nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors@yespodcast.fr. Yes avec toujours 3S.
On attend beaucoup, beaucoup de blagues misandres,
oui.
SVP.
Au maximum. Donnez tout. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio Bam à Marseille qui nous accueille comme toujours.
Merci, merci.
Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Et tu peux, si le cœur t'en dit, nous offrir 5 étoiles. Ça fait toujours zizir. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oublie pas, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est tes choix. Toi seul sais ce qui est bon ou mieux pour toi. Tu t'écoutes, tu t'affirmes, tu te défends comme une reine. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yes!